Donc, on va redémarrer, car on est en retard et on va essayer de se terminer à 6 heures. Donc, il y a deux panels dans cette séance avec des sujets très proches. Dans la première heure, ou un peu moins, on va discuter de la conduite malveillante et les nouveaux GTLD. Je suis Greg Rattray, je suis le conseiller en chef de la sécurité Internet d'ICANN. Je vais faire ma présentation et en fait, on a cinq orateurs et je leur demanderai leurs commentaires, notamment sur la version qu'on a publiée dans le guide. Le deuxième panel, qu'on va essayer de faire démarrer à 5h30, à voir avec les abus malveillants et la protection du consommateur. Et on a des représentants internationaux qui sont responsables des agences spécifiques. Voici donc les deux panels qui sont distincts mais reliés. Donc, pour commencer, on a l'intention d'engager la communauté avec les mesures qu'on a mises dans le nouveau guide. Le processus de sécurité et de ses demandes. Et on a donc mis en place un papier spécifique d'éducation et on espère que les orateurs et la communauté pourront nous donner ses commentaires, notamment pour savoir si ce sont les mesures sont les bonnes. Donc, je vais commencer les populations orientales et je vais y aller rapidement. On a un procédé de consultation avec la communauté, avec un grand volume d'input, et on a fait un sommaire des propositions de solutions. Et on est en train d'attendre les commentaires du public. Voici les sources d'informations dont on s'est servi, notamment comment on doit mitiger les conduites malveillantes. On a des experts qui nous viennent de tous les organismes qui sont mentionnés sur la diapositive et je vous les présenterai quand ils vont parler. Donc, on a essayé de grouper de manière significative les cinq problèmes clés de manière à ce que les mauvais acteurs ne soient pas chargés d'être responsables des registres. On veut essayer d'arrêter que les mauvais acteurs puissent être responsables des registres. Il faut également essayer d'avoir des modèles de réponse de la communauté et principalement des praticiens qui sont sur le panel. Et on va discuter les éléments qu'ils ont apportés dans le débat. C'est-à-dire, par exemple, dans le domaine de la banque, où il y a eu beaucoup d'aspects malicieux, malveillants. Il faut que le public ait une meilleure confiance en ce qui concerne les effets des conduites malveillantes et qu'on ait une meilleure qualité des propositions mises en place et des programmes mis en place avec Je vais donc passer en revue les réponses à trois niveaux différents et ensuite on parlera plus succinctement des programmes. Donc, quels sont les opérateurs de registre qu'on a vérifiés? Il faut qu'on empêche l'application de certains éléments basés sur des critères qui sont associés avec les applicants dans un registre proposé. Par exemple, où il y a eu des problèmes de fraude, de conduite malveillante dans le passé, dans le système des noms de domaine. Et il faut établir des critères qui sont basés sur l'histoire criminelle. Dans le plus mauvais des cas,
Par exemple, quelqu'un est propriétaire qui encourage les conduites malveillantes. Comment est-ce qu'on peut assurer l'intégrité des données? Il y a des stades à contempler. L'application doit avoir un développement DNSSEC et également il faut qu'il soit autorisé d'utiliser le DNSSEC. Il faut éliminer les cartes sauvages. On ne peut pas accepter ce genre de conduite avec l'application des nouveaux GTLD. Il faut également être sûr que les dossiers qui sont maintenus par l'opérateur de registre soient sûrs. Celui qui est assis à côté de moi, à gauche, a identifié que certaines des activités malveillantes dans les domaines des domaines sont associées avec des activités qui utilisent des dossiers orphelins. On s'est penché sur le problème spécifique et il faut attention à ce que ces dossiers de col orphelin ne fassent pas partie des nouveaux registres. Un autre domaine, il faut qu'on encourage les opérateurs qui, par exemple, ont à voir avec les recommandations d'Internet. Et il faut que ces mêmes provisions soient mises en place pour la protection en ce qui concerne la conduite malveillante et ses activités associées. On a décidé de mettre en place une proposition qui peut demander à ce qu'il y ait un accès central des dossiers. On va essayer comment on peut le mettre en pratique, comment ça marche avec la communauté. Et ceux qui ont besoin d'avoir l'information en provenance des registres, actuellement, ont besoin d'accéder le registre un par un. Donc, évidemment, c'est une proposition beaucoup plus difficile à mettre en pratique. Le nouveau guide demande à ce que les registres doivent identifier la personne qui commet des conduites malveillantes. Il faut que la police d'abus documentés soit mise en place. Nous devons être sûrs que les nouveaux registres mettent dans le domaine public la manière dont ils font face aux conduites malveillantes. Enfin, pour terminer, il y a un processus CRES sur la sécurité. On a vu dans le passé que les nouveaux registres doivent demander à ICANN à ce qu'ils mettent en place des procédures et des obligations contractuelles qui ont à voir avec la sécurité et qu'ils fassent ça de manière rapide. Ce processus est en place et sera disponible pour les opérateurs de nouveaux registres. Donc, en ce qui concerne la zone de haute sécurité, il y a un concept qui a été publié dans la version DAC 3, dans une zone, par exemple dans la banque et la finance. Il faut essayer d'avoir des contrôles internes mis en place dans les nouveaux GTLD qui puissent être pris pour cible. Il faut également travailler plus dur pour que la sécurité et les procès opérationnels soient améliorés. C'est pour ça qu'il faut également un niveau secondaire important qui puisse vérifier la sécurité dans différentes situations. Il y a un nombre de choses à considérer dans le concept publié sur le site spécifique. Je ne vais pas les lire en détail. Mais à la fin de ce papier, vous avez des considérations clés à considérer, à mettre en place en priorité, des analyses, des discussions, les coûts, comment on va allouer ces différents procédés de manière à ce que le programme soit mis en place et soit utile. Les éléments du programme HSZ. Il faut regarder la publication. Voici les éléments à considérer dans le papier de concept publié. Un aspect clé à avoir avec un programme volontaire. Ça ne fait pas partie pour l'instant de l'application. C'est séparé de cela. Normalement, en ce moment, le papier parle des TLD et pas des nouveaux GTLD. Donc, il est certain qu'il y a des nouveaux arrivants dans ce domaine. On doit faire ça de concert avec la mise en place des nouveaux GTLD. Et on va solliciter les éléments du groupe de travail, notamment dans la mise en place des programmes, la mise en place des procédés, des experts, de manière à ce qu'on ait un programme fiable dans ce domaine. Je vais donner le micro à Mike. C'est le président du comité Internet et ses polices d'application. Et je veux également qu'il nous donne son point de vue sur les conduites malveillantes.
Merci. Merci à tous de votre accueil. Je n'ai pas de diapo vous montrant, donc je vais simplement parler de certaines de ces questions et je vais vous donner des retours de la part de l'organisation que je représente. Et en ce qui concerne le calendrier de cette réunion, c'était intéressant parce que nous avons eu notre réunion mi-annuelle la semaine dernière et nous avons couvert donc ce sujet. Et nous avons des retours intéressants que je voudrais vous communiquer. Nous avons demandé au public combien de personnes connaissaient ce programme des nouveaux GTLD. 95% en avaient entendu parler. Donc, c'est excellent. Donc, en tant que pénétration du message. Et en question générale, est-ce que c'était une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que ça vous est indifférent? Donc, c'était assez également distribué. Et donc, du retour de la part. C'est pas du tout officiel, hein, c'était un sondage informel. Donc, dans le cours de cette réunion, on a également le comité de pilotage et on a parlé de certains problèmes. Et dans l'ensemble, le retour du nouveau DAG était plutôt positif quant à cette intégration concernant les conduites malveillantes. Et donc il y avait certains aspects en particulier que je vais vous signaler. Et les points couverts positifs, c'était quels sont les éléments détaillés, et ça c'est toujours la difficulté. Et on cherche toujours à bien comprendre les détails, le niveau de détail. Dans l'ensemble, la communauté était très positive sur cette nouvelle direction. Donc en ce qui concerne la participation contrôlée et des registres, et c'était vraiment un sujet sensible, essentiel. Et si on est conscient des questions des mauvaises utilisations des données, nous sommes également prudents sur les dispositions. Est-ce qu'elles s'intéressent uniquement à la participation, mais où est-ce que ça tient compte également des personnes importantes au sein de l'organisation? Parce qu'il faut aller au-delà de l'application. Est-ce qu'il n'y a pas des gens par derrière, des gens malveillants par derrière? En ce qui concerne les chaînes, il y avait des choses qui pouvaient être utilisées à mauvais escient. Et la question de la zone de sécurité, mais on est assez convaincu du côté technique, c'est pas vraiment un souci. Donc, la zone de haute sécurité, on était très favorable là-dessus. Encore une fois, Il y a beaucoup de détails, de précisions à trouver quand même, à satisfaire. En ce qui concerne, il y avait une chose qui n'avait pas été bien traitée, c'est la question de transparence et de responsabilisation. Et en fait, il faut bien connaître son client. Les institutions financières sont obligées de connaître leurs clients, ainsi que d'autres formes d'entreprises commerciales. Et le point central, là, c'est une question de revendeur pour les noms de domaine. Et donc, il peut y avoir des abus. Il y en a eu au cours des dernières années. Là, on n'a pas bien vu comment c'était abordé, là. Donc, vous en savez certainement davantage là-dessus. Et donc, voilà. C'était de permettre aux gens qui travaillent de pouvoir... de voir comment qui pouvait avoir une influence. Une question de mise à l'échelle également qu'on a abordée. Nous avons donc les accès légitimes. Et c'est une question de mise à l'échelle. Et qu'on aimerait bien voir dans le guide, c'est que on voudrait voir des tests réels des demandeurs pour voir s'il s'agit bien de personnes reconnues juridiquement, etc. Donc, sur ces problèmes, c'est une autre problème de longue date. Et nous aimerions également voir l'exactitude des données dans le WHOIS, parce que c'est pas seulement pour connaître les gens malveillants, mais c'est aussi la plupart des sites d'hameçonnage, etc., se trouvent sur un site de pirates. Donc, quand on veut régler quelque chose, et comment savoir, il faut qu'on sache quel est le détenteur, le titulaire du serveur. Donc, voilà. Et donc, l'exactitude des données est importante et ça serait vraiment un élément de protection des registrants. Les contrats de registre, les procédures, pas les contrats, mais les données de contact, il n'y avait pas vraiment de choses à énumérer, mais notre communauté aimerait avoir au moins un minimum à satisfaire. Et on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Une ou deux choses concernant les orphelins et sur les commentaires déjà publiés. Et on en a déjà parlé. Nous sommes contents que vous abordiez la question. Voilà ce qu'on voulait couvrir. Merci. Merci, Rod. On va passer à Adam Palmer et qui représente le groupe de sécurité Internet pour les registres, RISG, et qui s'intéresse aux questions de vol d'identité, d'usurpation d'identité et de fraude. Je suis là, en fait, au nom également de mon représentant, Simon, qui était président de RISG et qui ne pouvait également demander de la représenter. C'est une initiative de PIR et autres, donc c'est d'être un groupe qui se différencie d'autres groupes comme APWG, donc groupe de travail, et il regroupe les grands registres et d'autres utilisateurs de la communauté ICANN. Ce que nous voulons, c'est pouvoir influencer par la pensée et favoriser les meilleures pratiques, en particulier en matière de fraude et d'usurpation d'identité. Et nous voulons inspirer, donner de l'inspiration aux nouveaux registres. Il nous semble que c'est très important de prendre la tête au niveau de la réflexion, de prendre comme les membres du RISG, et de collaborer pour réduire les utilisations abusives. comme je l'ai dit, ce groupe est un groupe assez récent. Pour ceux qui connaissaient, qui a commencé il y a 18 mois. Et le but, c'était d'animer un dialogue, une collaboration, d'effectuer des changements, de créer, d'adopter des pratiques idéales en matière d'usurpation d'identité sur Internet. Voici certains des membres de notre groupe RIG. Comme vous voyez, et il y a tout un ensemble de regroupements, y compris les registres de GTLD, les CCTLD au niveau mondial. Il y a également les revendeurs de sécurité, et McAfee, Symantec, par exemple. Dans notre réunion, nous nous retrouvons tous les mois. Et nous retrouvons également à la conférence ICANN. Et cette semaine, nous aurons il y aura une présentation de SOCA, qui est l'unité de anti-cybercriminalité du Royaume-Uni. Et nous allons donc discuter avec eux de leurs préoccupations et pour lutter contre les utilisations abusives. Et puis les grands registraires également. Donc, c'est une collaboration, un effort de collaboration pour faire connaître la perspective de ces grands intervenants. Le PIR était très intéressant et de participer et d'être au directoire. Il y avait donc un programme anti-utilisation abusive. Et je vais en parler également au cours d'un panel où je me trouverai dans la semaine. Et on voudrait partager avec d'autres et indiquer que c'est, on peut combattre les abus, lutter contre les abus, et que c'est souhaitable. Voilà quelques-unes des idées que nous voulons. C'est déjà un plan de partage des données, l'anti-hameçonnage, comment répondre à ces menaces, comment le traiter au niveau du registre. Nous espérons que d'autres vont être inspirés et le feront volontairement. Nous ne cherchons pas à lutter contre les abus de marques déposées. C'est une, en fait, nous nous intéressons aux questions criminelles ou comment nous pouvons avoir un effet et réduire leurs effets et passer à une adoption volontaire. Donc, je sais qu'on n'a pas beaucoup le temps, donc ça va être difficile à lire, mais voilà. Nous, on a essayé de rassembler des remarques pour ICANN et pour on aimerait voir que c'est l'adoption de certaines recommandations. Et selon notre avis, en particulier la version complète du RUIS, et le PIR s'intéresse beaucoup et nous avons des remarques également sur le DAG. C'est un peu difficile. Je ne peux pas encore en parler directement parce qu'on peut pas, on n'a pas terminé. Ça sera bientôt le cas. Et on va faire une étude là-dessus et pour améliorer la sécurité. Merci.
Merci, Adam. Je vais demander maintenant à notre vice-président de la sécurité pour BITS, les membres comprend les organismes les plus importants. Il coordonnait l'analyse des conseils et notamment il fait la liaison avec ICANN. Notamment sur les nouveaux GTLD et leur application. Merci, Rick. Et je remercie ICANN de me donner la chance de revenir en arrière. On a parlé avec ICANN pour un certain nombre d'années avant que les nouveaux GTLD soient mis en place. On s'est penché sur les conduites malveillantes, donc ce n'est pas une relation nouvelle pour nous. On a eu les versions 1 et 2 du guide des applicants. On a également vu que l'ABA a donné un certain nombre de commentaires sur les conduites malveillantes. En conséquence, des soumissions ont été données au personnel d'ICANN
et on a eu des conversations informelles qui nous ont menés à la liste que les quatre associations ont mis en place de manière à ce que les demandes spécifiques soient mises en place, notamment par rapport aux services financiers. Et il est certain que c'est une industrie qui s'occupe beaucoup des services au public. Et on est, en tant qu'industrie financière, les plus attaqués et nos clients sont les plus attaqués. Donc il faut faire attention, comme on va de l'avant, d'avoir les moyens de sécurité nécessaires en place. On a soumis deux documents à ICANN. Premièrement, des domaines qui ont à voir avec la sécurité, la stabilité. Et il y a trois joueurs importants, les registres, les registraires et les registrants. Nous pensons que c'est important de reconnaître que ces trois rôles de joueurs doivent être sécurisés dans le domaine Internet et que les conduites malveillantes soient limitées au maximum. On a fait également des recommandations dans le guide des applicants, c'est-à-dire identification et évaluation des risques dans le domaine financier. Et en démarrant avec ces quatre groupes qui sont principalement américains, on a travaillé avec d'autres organisations, essayé d'internationaliser le support pour ces mesures à prendre. On a eu le support de l'Association des banques australiennes et du Royaume-Uni et du Canada. On espère que d'autres organisations vont nous apporter leur support. Où en sommes-nous aujourd'hui? On peut dire qu'on a des problèmes en ce qui concerne notamment la résilience et la sécurité. On pense que ICANN essaye de résoudre la majorité de ces problèmes. Et on reconnaît, à travers le travail de Greg et du personnel, qu'il y a eu beaucoup d'efforts positifs qui ont été mis en place dans ce domaine. Et on essaie de les encourager, bien sûr. Concernant la sécurité en particulier, on supporte le domaine à haute sécurité et sa certification. En fait, si on se tourne vers le guide de l'applicant, et mon ami sur la droite ne nous a pas encore donné ses commentaires là-dessus, on en est au niveau préliminaire, mais on est encouragé que la majorité des recommandations ont déjà été inclus dans tous les nouveaux domaines GTLD. Donc la plupart des idées, notamment pour les vérifications d'identité et tout ça, que nous avons recommandées, ont été officiellement reconnues par le comité directoire et on est très encouragé là-dessus. Il y a bien sûr des problèmes qui restent à résoudre, notamment les services financiers. Greg nous en appelait auparavant. Et par exemple, je dois ajouter que on pense que c'est important dans les services financiers. Il y a également, c'est important pour d'autres industries. Par exemple, la santé, où il y a des problèmes de confidentialité. Par exemple, sur l'Internet, il y a des issues de confidentialité avec plusieurs organismes. On essaye d'encourager et d'avoir les commentaires de nos collègues. On a également des problèmes concernant le système de modèle qui a été mis en place dans les domaines financiers. La plupart des pays ont vu qu'il y a des problèmes d'infrastructure, qu'ils sont susceptibles d'être attaqués. Que va-t-on recommander pour faire face à ces problèmes? Quels seront les domaines de services financiers impliqués? Il faut également parler des problèmes d'objection
Et il est bon qu'on ait reconnu dans cette que la communauté peut objecter à certaines applications, par exemple en Afrique. Il est certain que parfois, il y a des problèmes de résolution de disputes et les panneaux associés. Et il est possible que certains domaines soient approuvés et ne soient pas particulièrement sûrs. Donc, il faut se concentrer sur ces problèmes. Et en allant de l'avant, Greg a parlé du groupe à haute sécurité. On les supporte au maximum. Nous pensons que nous pouvons recommander les mesures de sécurité à appliquer, notamment dans la certification de la haute sécurité. On va continuer à parler avec d'autres joueurs dans l'industrie, de manière à ce que l'issue de conduite malveillante soit adressée de manière effective. On va parler également dans le domaine public, sur les GTLD des services financiers. On va également parler et demander des commentaires sur le papier temporaire numéro 3. Et on essaye d'avoir les commentaires à temps en ce qui les concerne. Merci, Paul. On va demander vers Jingyun Cho, qui est un coordinateur de l'équipe d'urgence de réponse des ordinateurs. Il a une collaboration active avec le domaine public et le forum global des équipes de réponse telles que APEC et l'OCDE.
Merci. Je travaille depuis longtemps dans ce domaine. Dans la question d'hameçonnage et des activités malveillantes sur Internet, je voudrais d'abord souligner ma position personnelle sur ces questions. C'est important pour les GNSO, les registres et les registraires. Ça me semble que c'est semblable à l'ISO 1577 concernant ceci serait une question de sécurité. Donc, ce serait une question d'exemple et ce serait une réponse sous forme d'exemple. Et ce serait une bonne chose, mais de mon point de vue, il nous faut tenir compte que nous sommes notre la sécurité dépend du le lien le plus faible, du point le plus faible. Et il faut que cette sécurité s'applique à toutes les personnes impliquées et tous les utilisateurs. Et donc, nous devons... ce n'est pas simplement sur certains aspects, mais ce n'est pas au niveau du secteur. Mais dans les hameçonnages ne se passent pas toujours... se passent par exemple, pas uniquement dans les banques. C'est une exploitation. Ils exploitent les noms du GNS, mais il nous faut tenir compte, il faut augmenter la sécurité de base, et même pour des TNS. Donc, je fais partie de la communauté, certes, et je suis heureux d'entendre parler de l'adoption d'utiliser de certains fichiers. C'est très important lorsqu'on veut rechercher qui est à l'origine d'une utilisation abusive. Et si nous avons des informations supplémentaires dans la version du WHOIS, ça sera beaucoup plus facile de trouver. Et de même, ICANN peut également, certes ou c'est certes, même peut permettre de trouver qui est derrière ces activités malveillantes et ces questions importantes. Dans ce qui concerne les fichiers partagés, ça doit être mis à jour de façon régulière, parce que c'est pas toujours mis à jour complètement. Donc on ne peut pas vraiment trouver une personne particulière qui est vraiment qui est concernée par ces activités. Ça, c'est une des questions. J'aimerais qu'on puisse le cadre des nouveaux GTLD nous donnera l'obligation à ces GTLD de mettre à jour tous les ans leurs coordonnées et leurs informations. Le point suivant concerne les abus et la politique. C'est une question importante dans les cas d'hameçonnage et le traitement. Et s'il y a, en ce qui concerne les registres et les registraires, est-ce qu'on peut avoir une formation pour ce point de contact? Parce que Internet est souvent, et c'est une chose internationale, et donc pour certains c'est le matin, pour d'autres c'est le soir, et donc ils arrivent peut-être à se revoir dans la journée. Et les administrateurs de serveurs ne peuvent pas faire une formation sur 7 jours. Donc, si un registre ou un registraire peut traiter ces postes pour d'autres. Voilà, c'était un point de vue personnel sur ce sujet, sur la proposition d'ICANN. Merci. On va passer au dernier intervenant, qui est un agent spécial du FBI, et il donc s'intéresse particulièrement à la gouvernance vis-à-vis de l'Internet. Merci, Greg. Après cette séance, nous allons avoir une séance sur l'application des lois pour que vous ne m'entendiez pas trop parler. Mais une des choses que je voulais faire une remarque et donner tout mon appui là-dessus en tant qu'enquêteur internaute, et c'est ce programme. Nous aimons donc que vous avez l'intention d'avoir des registres, des registraires, que vous les vérifiez, et également les informations des registrants. Donc c'est le principe numéro 3. Le meilleur moyen d'empêcher la criminalité, c'est de l'empêcher de se faire. Et c'est déjà un point de départ très important. Nous avons également mes homologues de la Corée, du Royaume-Uni, de la Thaïlande, je crois. Et donc, je vais vous parler des crimes auxquels nous faisons face, parce que c'est vraiment un défi dans le monde entier. C'est très difficile de l'empêcher déjà dès le départ, avant qu'il ne se passe. Et ce programme de vérification de zones de haute sécurité nous paraît très important. Et nous avons un programme également, on va en parler dans la prochaine séance. On en parlera également au GAC, également au groupe de travail sur l'accréditation des registraires. On en parlera également. Mais le point clé, c'est que l'information est exacte, qu'elle est vérifiée, qu'elle est disponible de façon publique et facile à accéder, facile d'accès. Et donc, nous aimerions vous encourager à en faire une norme, non pas un simple programme, que les internautes dans tous les registrants puissent adopter. Et c'est ce que j'avais à dire donc pour cette séance, et j'aimerais vous en dire plus dans la séance suivante. Merci, Bobby. Donc nous avons exactement 5h30. On a commencé en retard, et donc ce que je vais essayer de prendre encore 10 à 15 minutes de questions, et ensuite de donner une demi-heure pour la prochaine séance jusqu'à 18h15. Sauf si quelqu'un me dit que ce n'est pas faisable. Donc je vais donner la parole à la salle pendant quelques minutes de questions, et ensuite on va passer rapidement au deuxième panel. Bonjour, je suis Evan Lee, je suis fait par de At Large pour la région Amérique du Nord, Et je parle donc, je voudrais parler de l'exactitude des données. Je suis vraiment, je me demande pourquoi c'est une question de discussion. En quoi est-ce qu'on ne peut pas, pourquoi ce n'est pas une simple obligation des registres de donner des données exactes pour le who is? Est-ce que c'est pas vraiment au cœur de la responsabilisation? Tant pour repérer les personnes malveillantes que pour les responsabiliser. J'aimerais vraiment savoir pourquoi la question est ouverte, pourquoi on en discute, et pourquoi on ne peut pas obliger les gens à donner des informations exactes. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une discussion là-dessus pour viser l'examen. C'est comment le faire plutôt, c'est pas sur le fond. Ou même comment en faire une obligation. C'est la réalisation qui est difficile. Si les membres du panel veulent dire quelque chose, oui, je voudrais simplement dire que cette question, c'est pas vraiment que c'est qu'on ait une exigence d'exactitude. C'est plutôt quels sont les procédés à mettre en place pour vérifier, valider cette exactitude. Donc, si vous me donnez une adresse, mettons pas une adresse aussi fausse, donc, mais c'est une adresse qui paraît tout à fait légitime. Il faut quand même trouver une méthode de validation de ces informations. Il faut procéder pour valider les cartes de crédit qui servent à l'inscription. Je suis sûre que notre collègue ici vous dire que le nombre de fois que des cartes de crédit fausses servent aux inscriptions. Et puis, quand il se passe quelque chose, on n'a pas de trace à suivre. Donc, c'est pas, est-ce qu'on veut que ça soit exact? On veut tous que ça soit exact. Mais quelles sont les procédures à mettre en place pour valider cette exactitude? Et donc, c'est comme si on a vraiment besoin, on aura une trace. Je vais essayer de passer à la question suivante. Je suis Werner Staub. Je m'intéresse aux questions financières et en particulier, ce qu'on a dit, c'est en particulier sur l'importance d'une sécurité de haut niveau pour les institutions financières, surtout pour ces noms de domaine. Et il faut le faire par le biais de la communauté des règlements financiers. Donc, en ce qui concerne les GTLD, l'initiative que nous avons pour la sécurité, la haute sécurité, ça va certainement dans le bon sens, mais les GTLD financières devront aller bien au-delà de ce niveau. Si vous regardez le point banque, la seule raison pour laquelle ça doit exister, c'est la sécurité. Pour avoir un label qui soit facile à lire et facile à reconnaître, voir qu'il y a une question une sécurité appliquée, que ça peut être validé par informatiquement. Et il faut que chacun doit pouvoir le vérifier. En ce qui concerne, ça m'amène donc à la proposition qu'il faudra toujours des niveaux de sécurité différents. Ça doit être un objectif que les nouveaux GTLD permettent de nouvelles politiques au sein du DNS et pour qu'une sécurité très élevée soit déployée et reconnue pour faire la différence avec les autres niveaux de sécurité. Merci. Remarque rapide, ce document conceptuel n'envisage pas de travailler avec les techniciens et les développeurs d'applications pour essayer d'avoir plus de visibilité, pour dire voilà, vous travaillez dans un domaine très sécurisé. Une dernière question et ensuite à vous. Merci. Steve Matin, je suis là au nom de la Coalition pour la responsabilisation en ligne. Une des questions qui vient de ce panel, c'est pourquoi cette zone, les normes de la hausse n'étaient pas obligatoires. Donc, je voudrais poser cette question à Greg. Et si la réponse est qu'on ne connaît pas la limite, le périmètre de cette obligation, peut-être que vous pourrez dire quel sont le nombre, le type de registrant n'est pas besoin d'avoir ce niveau de protection.
La notion a en fait à voir
que l'Internet est une place diversifiée. Le marché nous donnera les moyens d'opérer des zones plus sécurisées. Et dans le marché, il y a des coûts de mise en place qui sont importants, notamment dans les programmes des zones de haute sécurité. Peut-être que les GTLD vont dépendre d'un modèle d'affaires qui n'est pas nécessairement approprié. Voilà donc en fait la raison principale. Oui, c'est vrai. C'est parce que nous pensons que dans ces situations, les opérateurs de registre doivent donner un certain niveau de confiance qui entraînera une certification. Malheureusement, il n'y a pas d'incentif à donner. Vous traitez les mauvais comme vous traitez les bons, dans le cas des processus d'évaluation. Et vous ne donnez pas de bons points à ceux qui font les bonnes choses. Il y a beaucoup de degrés différents qui ont à voir avec la sécurité et ses procédures pratiques. Merci. Je suis Rob Bohan. Je suis la liaison de ASAC au comité directeur de ICANN. On parle toujours de l'importance de OUIS et ALAC notamment, et leur impact sur leur possibilité de faire leur travail proprement dans les noms de domaine et protéger les registreurs. Et la question au panel est la suivante. Quelle est votre opinion sur les enregistrements qu'on puisse donner à quelqu'un d'autre? J'entends des gens qui la supportent. C'est un mécanisme de validation OUIS. Si vous avez une adresse e-mail, par exemple, vous pouvez les atteindre, mais le registrant est caché. Donc j'entends d'un côté une opinion, et de l'autre côté, j'entends que la procédure d'enregistrement est en fait un procédé bidon qui permet aux mauvais éléments de se cacher derrière cela. Vous avez un point de vue là-dessus? Oui, je vais prendre la question. La question « Who is ?» est une histoire très longue concernant ICANN. Moi, je l'ai mise en avant et c'est toujours un problème argumentatif qui revient tout le temps. Je ne veux pas qu'on discute uniquement sur le point de vue de « Who is ?» notamment sa relation avec ICANN. La question des proxys. Qui s'en sert? Dans quel but? On a des études appropriées là-dessus qui vont identifier les noms qui ont été utilisés et dont certains mauvais gars se sont servis pour se cacher. Mais ce n'est pas une proxy opérationnel. C'est un aspect technique de l'affaire. Par exemple, il y a un set web spécialisé et de ce point de vue, de la manière des répondeurs, c'est un problème car c'est une autre couche et il y a une blocade qui nous empêche d'aller de l'avant. Les agences d'application de la loi ont les moyens de remédier à ce problème. Bon, la plupart des conduites malveillantes sont faites par des individus privés qui attaquent ceux qui offrent des services. Et donc, on a une couche supplémentaire qui nous empêche d'avoir un système simplifié et clair. Par exemple, l'usage qu'on peut... dans le cas où on se sert de sociétés authentiques, mais qui a des fins frauduleuses. Bobby, vous avez un commentaire là-dessus? Oui, en fait, premièrement, on est toujours en support des l'utilisation des noms non commerciaux. Mais évidemment, les agences d'application de la loi, dans le cadre du FBI, par exemple, et les agents spécifiés font des études appropriées. Les criminels se servent de registration bidon. Oui, c'est vrai, ils s'en servent. Il y a des criminels qui font de l'hameçonnage et ils se servent de la possibilité de la fraude. Quels sont les pouvoirs spéciaux dont on a besoin? Par exemple, aux États-Unis, je peux voir qu'il y a un nom de domaine qui s'occupe d'une registration du Brésil, du Japon ou d'Angleterre. Je peux simplement... Je peux pas leur donner un ordre de tribunal. Et souvent, quand on arrive à atteindre le criminel, il est déjà parti et c'est renouvelé sous une autre forme. Donc il y a également certains des criminels qui s'en servent. Donc on va essayer de conclure. Deux questions. Gardez les questions courtes et les réponses courtes, s'il vous plaît. Moi, je parle qu'en tant du groupe de travail de l'enregistrement. C'est pas seulement à OUIS où il y a des problèmes. C'est pas seulement à OUIS que vous avez des contacts incorrects. Dans beaucoup de cas, par exemple, des informations qui sont dans OUIS qui sont complètement incorrectes. Ils mettent une fausse adresse sur le site web. Donc vous achetez quelque chose sur le site web, c'est jamais délivré. Et une fois que vous prenez contact avec la page web, ce sont des informations erronées. Comment pouvez-vous remédier à cette situation? Comment pouvez-vous vérifier ces sites web de manière à ce que les mauvais participants soient éliminés? On n'essaye pas d'avoir des réponses trop sophistiquées et trop longues, mais on essaye que les agents qui sont spécialisés dans ce domaine puissent prendre des actions rapides. Je suis Bob Hutchinson. Je parle en tant qu'individu. Qui est pris pour cible en ce qui concerne les problèmes de sécurité? Les registres, les registrants, les registraires? Comment est-ce que les utilisateurs pensent que leur argent est bien dépensé? On peut faire face aux problèmes de sécurité, comme par exemple dans les banques qui travaillent avec l'Internet. Qui va bénéficier de ces nouvelles applications dans le domaine de la sécurité et des obligations qui en découlent? Voilà ma question. Donc, de mon côté, comme on développe son programme, il faut que les bénéfices soient clairs. Il faut qu'on ait un plan de communication à un grand groupe de gens, notamment sur le plan communautaire, de manière à ce que les utilisateurs puissent comprendre s'ils peuvent s'en servir dans leur zone, et notamment, par exemple, dans la communauté financière, qu'ils puissent comprendre dans leur espace si les mesures mises en place sont sécuritaires. Moi, je ne pourrais pas le faire aussi rapidement. Dernière question. Je suis Jonathan et je m'intéresse à la compétition des technologies. Si je mets le bon software en place, j'arrive à ce niveau de sécurité important qui nous intéresse. Mais est-ce qu'on peut avoir une évaluation plus en profondeur de manière à évaluer dans la praticalité courante les zones de sécurité qui nous intéressent et comment on va y atteindre pour une zone de sécurisée. Si vous regardez les publications dans ce domaine, vous verrez par exemple qu'il y a un détail des meilleures pratiques à mettre en place, application des technologies, technologies d'autorisation ou d'authentication. Et il est certain que ce sont les membres du personnel qui travaillent au niveau du registre qui devront être familiers avec ces mesures. Mais nous, on va avoir des réponses de la communauté pour savoir quelles seront les meilleures solutions à mettre en place. Donc, à mon avis, le papier de conceptualisation est entre vos mains et c'est à vous de donner vos suggestions de manière à ce que le matériel soit mis en avant et notamment également les coûts associés. Merci. Avec ça, je vais remercier les orateurs de ce panel.